podcast, émission de radio, voire radio crochet, j'ai parfois du mal à utiliser les bons termes pour décrire le quatrième mur. Peut-être y verra-t-on un peu plus clair avec notre invité d'aujourd'hui, qui est précisément créateur de podcast. Mehdi Bayat, bonjour.
Bonjour, salut.
Tu as fait déjà, comme je le disais, tu as bossé sur pas mal de podcasts. Pourtant, je crois que toi, tu as commencé au tout début par le théâtre. C'est bien ça? Il me semble que tu as coécrit la pièce Sisters, qui revenait notamment sur la place des femmes dans les trois religions monothéistes.
Ouais, en fait, j'ai commencé depuis que je suis tout petit. J'écris des romans dans ma chambre sur mon ordi pour passer le temps. Et je travaillais dans un théâtre à Bruxelles qui s'appelle le Théâtre de la Toison d'Or, où je te conseille d'aller à l'occasion.
Avec plaisir.
Ben oui, c'est surtout des comédies. Et on m'a proposé d'écrire pendant que j'y étais. Les gens qui possédaient le théâtre ont vu que j'écrivais quand j'avais un peu de temps. Et ils m'ont proposé de co-écrire à trois une pièce, ce que j'avais jamais fait. Le fait d'écrire pour le théâtre, c'est des codes particuliers, un rythme particulier. Et en plus, tout ça pour être servi par un jeu spécifique aussi des comédiens, donc il faut le penser, il faut penser l'espace, etc. Et donc j'ai commencé par ça, et en fait ça m'a plu, et du coup après je me suis senti libre de faire d'autres trucs, tu vois. Il y avait un petit peu un... Enfin, je réponds à 1000 questions en même temps, mais...
Tu prends de l'avance, tu fais bien.
Mais voilà, c'est juste que oui, j'ai commencé par le théâtre, c'était une écriture vraiment différente, et j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur, ouais. De pourquoi est-ce que moi j'écrirais, qu'est-ce que j'ai à raconter, et en fait ça a un peu libéré ça quand j'ai pu écrire cette première pièce. Et après, je me suis lancé, quoi.
Et la pièce, elle s'est montée assez rapidement à partir du moment où vous l'avez écrit, puisque c'était une commande, en fait, du théâtre de la Toison d'Or.
Ouais, c'est ça. Et écrire dans le cadre d'une commande, c'est assez bizarre, parce que l'idée émane pas de toi. Tu dois cadrer un petit peu, donc tu dois canaliser plein de pensées, tout ce que tu as, un peu plein d'idées, dans un truc bien spécifique qui est un peu attendu. Il n'y a pas genre un public cible ou quoi, mais c'est vraiment... Enfin voilà, c'est une commande. Et par ailleurs, on était trois à écrire, donc c'est encore spécifique. J'avais jamais co-écrit un truc comme ça. Et donc on s'est découpé ça, chacun avait une partie. Et oui, c'était un exercice un peu particulier de répondre à ça dans le cadre d'une commande. Après, moi, je préfère, je pense comme beaucoup de gens, être complètement libre de pouvoir après tout éclater, faire des trucs, même péter au sol, enfin je veux dire, pour tenter quelque chose. Et là, c'était... Il y avait un cadre spécifique dans lequel je me suis un peu amusé quand même à casser deux, trois trucs. J'ai créé un ou deux malaises dans la pièce. Chaque soir, il y avait un malaise bien flippant pour les gens dans la salle. J'avais fait en sorte que la comédienne principale fasse semblant d'oublier son texte, d'être paumée, de paniquer et de partir, de quitter la salle. Et chaque soir, ça faisait son petit effet.
Un happening, les gens ne savaient pas trop si c'était du lard ou du cochon.
Il y a des gens qui essayaient, tu sais, qui l'applaudissaient en lui disant « Mais si, reviens, allez, ça va aller !» et tout ça. Et d'autres, parfois, d'autres soirs où c'était juste pétrifié dans la salle, silence de mort.
Les gens ne savent pas trop s'ils doivent se lever et partir.
Oui, c'est ça. Ils savaient pas, d'autant qu'elle, je me souviens de ce moment, elle part longtemps. Tu vois. Je me dis « Non, reste un peu, tu reviens pas tout de suite et tout. » Et voilà, ça, c'était agréable. Quoi.
Et donc, c'est après ces premières expériences théâtrales que tu t'es lancé. Tu parlais du roman. Le roman, c'est une forme plutôt connue depuis plusieurs siècles, on va dire, voire plus. Et le podcast, on peut parler toujours d'art émergent. Je crois que maintenant, depuis quelques années, on connaît, il connaît un certain âge d'or. Mais à l'époque, c'était plus fait de façon plus amateur que ça. Comment, toi, tu t'es lancé? T'en as d'abord beaucoup écouté avant d'en écrire?
Pas forcément, et même aujourd'hui en fait j'en écoute pas tant, les podcasts vraiment pas. Pour quelqu'un qui est censé en écrire et pouvoir en parler, c'est une cata. Enfin, j'écoute quand on m'en recommande, tu vois, mais j'en écoute très très peu, et j'écoute surtout de la fiction. Mais si tu dis par contre à des gens qui sont dans la création sonore que c'est un nouveau truc qui vient d'émerger, ils vont te casser la tête. Ils vont se dire non, mais attends, on est là depuis 40 ans, on a fait des trucs. Mais effectivement, t'as aussi entièrement...
Je veux dire qu'il est devenu mainstream depuis quelques années.
C'est ça exactement. Mais il y a eu un renouvellement et les gens se le sont réapproprié, une espèce de nouvelle vague de création. Ça, c'est clair, complètement. Mais dedans, tu as encore... moi, je suis arrivé là, je connaissais rien. Et effectivement, je te taquine un peu en disant
Bien sûr,
en fait,
tu as
des anciens qui font de la création sonore, de l'expérimentation sur le son, etc. Et même un truc issu de la dramatique radio passée. Et puis, tu as à côté des créateurs plus amateurs, tu vois, qui font de la saga MP3.
Oui.
Et ça aussi, c'est un autre genre un peu marginal, mais en fait, qui est foisonnant. Il se passe plein de choses dedans. Et à côté, tu as aussi une nouvelle vague... un peu de, tu sais, les podcasts portés par genre Louis Media, Binge Audio, trucs là.
Arte, ils sont
Arte Radio, grave. Ouais. Et c'est encore un autre truc, tu vois, avec un peu de fiction parfois, mais c'est surtout de l'entretien avec des sujets qu'on évoquait peu, tu vois, des sujets sociétaux qui sont souvent mis sous le tapis ou, ouais. Et on peut se réapproprier une certaine parole. Et donc ces trois trucs-là, moi j'ai un peu navigué dedans en découvrant ce que c'était. Et oui, bah, je me suis lancé, en fait je me suis lancé dedans sans trop savoir, sans les connaître, sans savoir quelles étaient les règles, les codes. Et je crois que c'est mieux, enfin c'est plus sympa parce que ouais. t'as pas de pression. Tu peux te planter et t'as plus de chances de faire un truc bizarroïde, un peu original, qu'en ayant baigné dedans. C'est toujours un entre-deux, tu vois.
Ouais. Et donc, finalement, toi, ce qui t'intéressait aussi, tu parlais de cette liberté de ton-là, c'est de te dire, bah, moi, je suis chez moi avec, grosso modo, un micro, une table de mixage, je peux faire à peu près ce que je veux. C'est ça qui t'intéressait, notamment par rapport à ce que tu disais, notamment si la pièce Sisters, qui était une œuvre de commande, là, tu ouais. repartais de façon assez
mais c'est
un
trop
peu
cool.
de zéro.
Mais cette liberté-là, c'est quand même dingue, quoi. Après, c'est un luxe aussi, tu vois. Mais moi, j'ai bricolé ça, je trouvais ça complètement fou de pouvoir raconter toute une histoire, tout un monde avec un pauvre micro éclaté, un filtre pop et rien d'autre, tu vois, et ta voix ou un ou deux potes qui sont même pas comédiens qui jouent dedans et une liberté totale sur tout, c'est-à-dire le rythme, ça peut faire la durée que tu veux, ça peut se passer dans plein d'univers, ça peut être dans une autre galaxie, ça peut être la porte d'à côté, l'immeuble d'à côté, tu vois. Ouais. Tu peux être subversif, tu peux raconter des conneries, tu peux les avec aucune peur d'être censuré par qui que ce soit, aucun ouais. cahier des charges à respecter. Et ce truc-là était juste fou. Tu vois, j'ai plongé dedans en me disant, allez, c'est parti, je découvre qu'en fait, je peux raconter des histoires comme ça avec trois bouts de ficelle. Mmh. Et voilà. Mais là, je suis dans un espèce de conflit maintenant un peu bizarre parce que on me commande des trucs, notamment bah, ou France Culture ou la RTBF ou des studios privés, tu vois. Et donc, je suis dans un entre-deux où là, nécessairement, tu perds en liberté, mais tu gagnes aussi d'autres trucs. Enfin, c'est assez particulier.
Ouais. Encore, ça te permet aussi de faire des choses de façon un petit peu plus professionnelle, avec un matériel un petit peu plus...
Ouais, c'est plus ambitieux. Ouais. Et tu travailles avec des gens dont c'est le métier, tu vois. Ouais. Donc, ils sont, d'une part, ultra passionnés, qui peuvent te fournir plein de conseils, t'encadrer, et puis, en fait, qui te poussent dans tout le truc, qui te donnent de nouvelles idées. Ouais. Tu vois, seul, t'es un peu avec toi-même. Donc, t'as plus de liberté, mais finalement, t'as peu de retour. Tandis que quand tu travailles dans un cadre comme ça, t'as des comédiens, comédiennes de fous.
Professionnels.
C'est ça. Chaque prise est excellente et à la limite elles sont toutes bonnes mais différentes, donc c'est même plus dur de choisir dedans, mais c'est royal. T'as des ingé-sons de fous qui vont te capter des détails particuliers, te parler d'autres présences avec d'autres micros, t'as un budget plus conséquent.
Mais dans ces cas-là, quand tu travailles avec des radios professionnelles, ton rôle il évolue pour devenir finalement celui un peu de chef d'orchestre, c'est-à-dire que t'es plus seul à la création, mais c'est d'avis. Tu vois, tu parlais de choisir les prises, quelle direction, quelle impulsion tu donnes aussi
Bah, y a, ça dépend. Maintenant, je fais des trucs un peu différents. C'est-à-dire pour certaines créations, je suis juste auteur.
Okay.
Genre, j'écris un truc, je le laisse entièrement entre les mains du réalisateur, de la réalisatrice. Et ça, c'est un truc aussi particulier, vu que tu dois lâcher prise. Tu vois, c'était ton bébé, t'as tes idées, ton machin. Et quelqu'un d'autre le prend, enfin, plusieurs personnes le prennent. Et t'as plus rien à. Mais souvent, ils sont assez cool. Et en fait, ils reviennent, il y a une discussion permanente. Il y a d'autres fictions où c'est un peu plus j'écris, je réalise. Il y en a d'autres où j'écris, je réalise et je joue quand même dedans. Voilà. Moi, ce que j'aimais bien, c'était aussi composer mes bandes-son.
Oui.
Et pour maintenant, la plupart des fictions, en fait, ben, je fais appel à des compositrices, compositeurs que je kiffe vraiment et qui font des trucs encore plus. Enfin, complètement fous, tu vois, bien stylés. Et je les agence. Et parfois. Par exemple, là, il y a une fiction pour France Culture qui va sortir bientôt. C'est un compositeur attitré qui travaille sur beaucoup de fictions de Radio France. Mmh. Et c'est incroyable ce qu'il fait. Et tu vois, je ne peux pas... Bah, là, c'est... Oui. Bon, vas-y. Je te laisse le truc.
Tu lui laisses les clés du camion. Et tu parlais de tes débuts. Finalement, comment ça s'était passé? C'est-à-dire qu'au début, les premières fictions sur lesquelles tu avais... Les premiers podcasts sur lesquels tu avais travaillé, tu avais mis ça en ligne. Et puis, il y a eu un effet boule de neige. Très rapidement, il y a eu un bouche-à-oreille favorable. Comment ça s'est fait?
Ouais, bah c'est un peu bizarre. Enfin, j'ai une des premières fictions que j'ai faites, c'était pendant le confinement. Et donc, je sais pas, je pense qu'il y a eu un truc à ce moment-là. Les gens étaient bloqués chez eux, ils avaient du coup envie
d'écrire.
Davantage
d'attention.
Ouais, ça se trouve, c'est juste un concours de circonstances particulier. Mais oui, en fait, j'ai découvert, c'était l'une des premières, ça s'appelait Lumière Noire.
Mm-hmm. C'était une fiction dystopique, il me semble.
Oui, c'est ça. Ouais. C'était l'histoire dans un futur proche d'un type seul qui anime une radio pirate. Chaque soir dans sa chambre. Et des lumières apparaissent dans le ciel, on ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, ce truc-là, en fait, c'est bizarre. J'ai reçu des messages de gens qui me disaient « Oh, on en parle sur Internet, dans des réseaux, dans des machins. Et je suis allé regarder et il y avait des groupes qui se formaient de discussions, de trucs là-dessus. Donc, mais c'était, en fait, c'est super parce que ça m'a chauffé à continuer. J'étais en train de me dire, bon, je vais peut-être l'arrêter en cours, cette série. Et puis, en fait, ben, j'ai continué à la faire tout en étant influencé. Tu vois, j'écrivais, j'enregistrais au fur et à mesure, mm-hmm. tout en regardant les commentaires un peu. Je me disais, ah, c'est marrant, tiens, ça les a fait flipper, ça, ils n'ont pas aimé, voilà.
Ouais, c'est un processus itératif, finalement. C'est ça qui est intéressant aussi, mm-hmm. quand c'est quelque chose que tu peux décliner, j'allais parler de feuilleton, mais que tu peux décliner sous plusieurs épisodes, ça te permet de prendre à chaud la température
c'est clair.
Et la réception finalement de ton œuvre.
Et t'es complètement libre, et tu fais, mais ça c'est un pied dingue, c'est-à-dire t'as pas de limite, pas de temps, pas de planning à respecter, pas de, tu t'en fous, tu fais exactement ce que tu veux, dès que t'as du temps le soir en fait, je sais pas, il y a des gens qui rentrent, qui jouent à la console ou qui regardent Netflix, moi à ce moment-là j'écrivais une histoire un peu perchée dans ma chambre. Mais je le faisais, c'est ça. En fait, en interaction avec ce qui se passait autour, je savais pas, tu vois, si en fonction de ce que j'avais vécu dans la journée ou de ce qu'on m'avait dit ou des bidules, bon, tiens, je vais partir sur ce délire-là. Et ça fait du bien. Enfin, c'est juste un genre de thérapie, je pense.
Un peu moins cher.
Ouais.
Et tu parlais des différentes... tu parlais de Lumière Noire qui, donc, comme je disais, une fiction dystopique, peut-être qu'on peut apparenter à de la science-fiction. Tu as touché à pas mal de genres, puisqu'il y a également Bisous à demain qu'on peut rapprocher du genre du thriller. Il y a Rouge Vif qui est une œuvre assez particulière, on y reviendra parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a également, il me semble, tu parlais des différents courants qu'il y a dans le podcast aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très très prisé, c'est tout ce qui est lié au true crime en fait, les histoires un peu, enfin les histoires criminelles qui ont réellement lieu. Je crois que ça, c'était une collection, tu as également participé à ça.
Ouais.
Et alors tu disais, il y a l'aspect parfois des œuvres de commande, mais quand toi tu es face à toi-même avec, tu le disais, cette totale liberté, qu'est-ce qui fait que tu vas être attiré par un genre plus qu'un autre, par une histoire plus qu'une autre, d'où ça naît finalement?
Bah, je sais pas, je pense que pour chaque personne qui se prétend un peu auteur ou autrice, mais il y a ce truc-là de t'es influencé déjà parce que en fait tu essaies de faire ce que tu aimes toi, ce qui te plaît, tu vois. Et c'est, je crois, enfin je parle pas de moi mais de ce que d'autres gens que je connais qui écrivent, en fait c'est meilleur ce qu'ils font quand ça les fait marrer, quand ils écrivent en gros un truc qu'ils aimeraient découvrir. Et moi je me fais souvent ce truc-là, je me dis j'aimerais écouter une histoire, le truc Lumière Noire c'était ça, je me suis dit j'aimerais bien écouter une fiction d'un type seul qui fait une émission de radio mais bizarroïde, tu vois, qui semble normal, qui ressemble à une vraie émission de radio qu'on pourrait écouter là, chez Radio Campus ou Radio Panique, et qui part en vrille. J'avais envie d'écouter ça, et je l'ai pas trouvé. Du coup, je l'ai fait, en me disant, ça vaudra ce que ça vaudra. Et donc, c'est pour ça que, pour répondre à ta question, pour les styles, ça dépend vraiment de... Bah, déjà, moi, j'ai un tropisme de malade pour la science-fiction.
T'en as beaucoup lu, beaucoup consommé?
Ouais, encore maintenant. Là, sur ma table de chevet, c'est un roman de SF... étrange qui... Enfin bon, bref. Mais voilà, ouais, j'en bouffe beaucoup, donc je suis influencé par ce truc-là. Et en plus, la dystopie, je trouve ça toujours fascinant, ce que ça permet, tu sais, de raconter un truc légèrement décalé ou parfois un peu plus loin qui nous parle du présent, mais de façon détournée. Je trouve ça assez habile.
Il y a toujours eu dans la science-fiction ce commentaire social ou sociétal.
Exactement.
Y compris de façon détournée.
C'est ça. Même si ça te semble éloigné, même si ça se passe dans 2600 ans, même le cycle fondation d'Asimov, en fait, ça parle du présent, tu vois, de nos civilisations. Et parfois, je suis attiré aussi par y a le côté polar ou thriller, parce que tu peux dérouler un fil. En fait, il y a une intensité scénaristique forte de base dedans. Et c'est juste c'est de la nitroglycérine, tu vois, quand tu crées un polar, avec de la tension qui est toujours là, et il faut jongler avec les émotions, la faire diminuer, et ça, c'est un exercice que je trouve super marrant, tu vois, essayer de pas en faire trop, de reglisser,
bien sûr,
de jouer sur les mystères.
Mais d'ailleurs, Bisous à demain, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'au début, tu disais à l'instant, partir en vrille, c'est quelque chose de très intéressant, puisque il me semble qu'il y a 17 ou 18 épisodes, entre 3 et 7 minutes, on va dire, et au début, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu sais que ça part en thriller, c'est bel et bien un thriller, mais ça part dans une direction opposée à celle à laquelle tu t'attends en tant que spectateur. Et j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est assez présent dans la construction de toi, de tes œuvres, de tes podcasts, c'est un côté assez slow burn, c'est-à-dire que on part d'une situation assez normale. Et pour
c'est bien ça, non?
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est très surprenant, mais en tant que spectateur, c'est tout à fait intéressant. Et justement, il y a ce progressivement la situation qui se dérègle et on atterrit souvent en des situations finales qui n'avaient rien à voir.
Il y a plusieurs trucs là-dedans. Il y a déjà, en fait, moi, je suis influencé aussi pas mal par le fantastique. Et l'une des règles de base du fantastique, c'est une situation parfaitement normale dans les romans fantastiques ou les nouvelles, avec un tout petit élément perturbateur qui n'a rien à foutre là. Et tout bascule. Et en fait, ça permet plein de choses parce que la situation absolument normale permet une identification au personnage, tu vois, une empathie pour eux parce que tu te reconnais à travers eux. Mmh. Et la simple minuscule bizarrerie, en fait, ben, tu la prends parce que tu es déjà porté dans un truc de normalité. Si tu commences la science-fiction, par exemple, c'est plus compliqué là-dessus parce que d'emblée, ça te pose un cadre...
Un paradigme qui est différent
exactement,
du tien.
Exactement. Ouais. Voilà. Là, tu repars sur un paradigme classique qu'on connaît dans une situation, une société, un moment qu'on connaît et ensuite une bizarrerie. Et ça, je trouve ça assez... ça marche super bien, tu vois. Après, il y a plein de trucs dedans. Il y a aussi le fait que moi, j'ai peur de m'ennuyer et de vous ennuyer. Mmh. Et donc, j'adore faire bifurquer le récit ailleurs. Au moment où on s'y attend pas, ou au moment où ça commence
au
à couler un peu.
Au moment où tu crois que tu commences à comprendre les ramifications du récit.
Ouais, on va partir ailleurs, tu vois. Genre, c'est toujours ça que je trouve... parce que moi, j'essaie de chercher, je sais pas si j'y arrive, mais j'essaie de toutes mes forces de trouver des façons de vous attraper, tu vois, fort, et de vous bousculer un peu. Et... parce que j'ai pas envie que vous soyez en train de faire la vaisselle ou un autre, j'ai envie que vous soyez là, tu vois, dans l'histoire. Et il y a plein
agripper
de façons.
Le...
Mais oui, vous prendre quoi. Et il y a plein de façons de le faire. Et une des façons, c'est ça, de faire partir complètement l'histoire. En fait, tu fais dérailler complètement ton histoire. Et alors là, tu rechoppes l'attention. Et l'auditeur se dit peut-être, ah d'accord, donc il y a quelque chose d'autre à comprendre. Je suis pas du tout dans l'histoire que j'imaginais. Mmh. Et donc tu rechoppes leur attention. Mmh. C'est un piège de Jedi, tu vois. Tu les reprends. Et voilà.
Mais c'est drôle parce que tu disais que tu n'écoutais pas, enfin peut-être que tu fais inconsciemment, mais que tu n'écoutais pas beaucoup de podcasts, mais pour certaines de tes fictions, tu joues beaucoup avec quand même l'aspect moyen technique, c'est-à-dire que je parlais de Bisous à demain, il me semble que l'intégralité de la fiction c'est par des échanges téléphoniques. Avec Rouge Vif tu vas encore plus loin puisque c'est une mise en abîme, le quatrième mur là c'est ça, briser le quatrième mur, enfin, c'est vraiment un podcast à l'intérieur du podcast. Et finalement, notamment Bisous à demain, ce que je trouve très intéressant c'est que c'est une fiction qui ne pourrait presque pas être un roman ou une BD ou un film, c'est-à-dire que c'est un podcast qui ne pourrait être qu'un podcast et qu'audio. Et en plus, ce qu'il y a de... Je vais te laisser la parole, mais ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est que le fait qu'on ait l'absence d'image, tu parlais de suspense et d'agripper le spectateur, là c'est exactement ça, puisque tu joues sur l'abstraction de la forme audio qui fait que, en fait, tout ce qu'on peut s'imaginer comme horreur est beaucoup plus terrifiant que ce qui peut être représenté à l'image.
Oui, c'est ça, ben, exactement. En fait, un des premiers trucs que j'ai réalisé, et je pense beaucoup de gens le comprennent quand ils commencent à toucher un peu à ça, c'est que quand tu fais de la création sonore, ou de la fiction sonore, par exemple, tu ne dois pas te dire que c'est genre une histoire normale, mais cheap, tu vois, où t'as pas, mais sans image.
T'as pas le budget, oui.
C'est ça. En se disant, je vais raconter l'histoire que j'ai envie de faire, malheureusement, il n'y aura pas l'image, donc il faudra raconter autrement. Non, moi, j'essaie de me dire que c'est une opportunité, tu vois. Ça raconte raconte autre chose. La fiction sonore, c'est pas juste de la fiction sans image, c'est une fiction par les mots, par les sons, par les... Et il y a plein de façons de raconter autrement, d'autres codes, et ça permet, c'est ça, en fait, tu fais carburer à fond l'imagination et la peur, l'essentiel de la peur dans tous les trucs, si tu regardes Alien, machin, c'est ce qu'on voit pas qui nous fait flipper, tu vois.
Et donc là, le requin dans de la mer ou l'alien dans Alien.
Exactement. Et donc c'est l'invisible parce que notre imagination travaille à fond les ballons pour reconstituer, tu vois, ce qu'on voit pas. Et notre imagination est vachement balèze pour nous faire flipper. Pour piocher au plus profond de nous nos phobies, nos peurs intimes. Et donc, même si, par exemple, pour Bisous à demain, si tu incarnes aussi tu vois, le gars, un monstre, un espèce de salopard visqueux, et ben en fait, on va poser dessus ce qui nous fait peur ou ce qui nous dégoûte.
Nos propres angoisses.
Exactement, les mettre dessus. Et par ailleurs, là, en l'occurrence, je trouvais que ça s'y prêtait bien parce que le dispositif fait en sorte que tu sois entre les deux. C'est-à-dire, tu n'es pas, tu vois, tu as ces deux voix, et donc c'est à toi de, tu peux pencher vers l'un ou vers l'autre, avoir plus d'empathie pour l'un ou l'autre,
ouais,
ou de la détestation, de la haine, de l'incompréhension des deux côtés. T'es vraiment au milieu. Et pour prolonger un peu cette réponse, je te fais des réponses fleuves, désolé.
C'est pas grave, les questions sont fleuves.
Non, mais c'est belle, c'est trop bien comme question. Mais t'as raison, en fait, dans ce truc-là, tu as aussi un truc spécifique, moi, c'est que j'ai essayé, en tout cas avec les premières fictions, de faire en sorte de justifier dans le scénario le dispositif.
D'accord.
Tu vois
Finalement, tu assumes le côté audio jusqu'au bout.
C'est ça. C'est un truc intradiégétique. Enfin, ouais. C'est dans l'histoire. Il y a Lumière Noire, c'est une radio. Il a un truc, il y a un machin. Donc, c'est évident que ce soit juste un format sonore. Mmh. Les appels téléphoniques, c'est la même chose. Dans Rouge Vif, ils sont dans un studio de podcast. J'ai fait une fiction policière il n'y a pas longtemps où on suit une jeune femme, en fait, aveugle. Oui. Et donc, tu es dans son esprit, dans
à
sa tâton, tête.
Il me semble.
Oui, c'est ça. Mmh. Et du coup, ça faisait sens que les indices soient sonores, qu'on soit placé dans son esprit. Et voilà. Là, je suis un peu sorti de cette règle pour faire d'autres petites créations bizarroïdes. Mais dans un premier temps, ça me faisait marrer. Parce que du coup, ça impose d'autres contraintes. Oui. Et les contraintes peuvent te donner des idées, en fait.
C'est des contraintes que tu t'imposes toi-même. Et à l'intérieur de ça, c'est particulièrement... stimulant.
Ouais, je dois être masochiste, mais je me mets ces petites règles à la con. Mais ça peut... En fait, c'est ça. J'en suis convaincu dans plein de trucs, que tu fasses de la musique, du film, du court-métrage, du machin. Quand t'as moins de moyens, tu dois être inventif.
Bien sûr.
Ou quand tu te mets des limites franches, tu vois, des règles... Eh ben, c'est à toi de trouver des trucs dedans, et souvent ça te permet d'aller encore plus loin dans des petites idées particulières, quoi.
Et tu, donc justement, tu évoquais la façon dont tu écris de façon plus spécifique quand tu te lances dans un projet, par exemple. Tu parlais de À Tâtons, Bisous à Demain, ça c'est des fictions qui ont été divisées en plusieurs épisodes. Par exemple, si on prend Rouge Vif, c'est un seul épisode qui dure une heure, enfin c'est un unitaire, on va dire. Quand tu te lances dans la rédaction de fiction à épisode, est-ce que tu as, on va dire, un arc narratif, tu sais exactement ce qui se passera dans le dernier épisode, ou toi-même, tu parlais de masochisme, tu t'imposes une situation donnée, tu te dis on verra bien au fil de l'eau.
Mais non, en vrai, je sais pas du tout où je vais. Hein. La plupart du temps, c'est ça qui est agréable. Dans les commandes, je dois savoir où je vais. Par exemple, on m'a commandé...
C'est le cahier des charges un petit peu.
Mais oui, tu dois aller quelque part. Là, on m'a commandé, il y a une adaptation de Dracula, de Bram Stoker. Et ben en fait, je devais coller, j'ai du tout... page blanche, tu reprends le début, parce qu'on n'avait pas les droits de traduction du texte, donc d'accord. Je devais tout réécrire. Et je savais, en fait, je devais coller à des choses...
Tu pars de l'incipit de Dracula.
C'est ça. Tu changes un peu, tu te permets des libertés, sinon tu te fais chier. Mais, et puis, pour construire ça, pour que ça résonne, de façon sonore, tu vois, pour qu'un roman soit sonore, il y a une autre écriture. Mais pour répondre à ta question, en fait, il y avait des fins. Je savais où j'allais pour chaque épisode, je savais où j'allais au final. Je viens d'écrire une adaptation de Frankenstein, c'est pareil. Donc je savais, je devais répondre. En plus, tu as un truc de durée, tu sais exactement. Donc pendant que tu écris, tu te dis, cette scène est un peu trop longue, bim, on va accélérer l'autre, faire une ellipse pour rentrer dans 25 minutes. Et à la fin, il faut que machin ouvre cette porte et qu'il y ait ce truc-là. Donc je sais où je vais. Pour d'autres choses, là, il y a une liberté folle et j'en profite. Les fictions dont tu parlais tout à l'heure, je ne savais pas du tout où j'allais. Hein. Lumière Noire, aucune idée. J'ai écrit l'épisode 1 un soir en rentrant de soirée. Je me suis pris une bière et j'arrivais pas à dormir. Et donc, je me suis dit, ah putain, ce truc de radio pirate, j'aimerais bien écouter ça. Et j'ai écrit un premier truc et je l'ai enregistré dans la foulée. Et je l'ai monté et je l'ai publié. Et je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et Bisous à Demain, par exemple. Si l'histoire bascule aussi comme ça, c'est parce qu'à un moment, je savais un peu ce que je voulais raconter. Mais à un moment, au bout de 3-4 épisodes, je me suis dit, oh là là, attends, il faut... où est-ce que tu vas? Il faut que tu ailles quelque part avec cette histoire. Et donc, je me suis posé, parce que ça me faisait marrer les premiers épisodes, ce petit jeu de...
Du chat et de la souris,
oui,
finalement.
C'est ça.
Et puis, tu parlais du noir et du blanc, de quel côté, ouais.
C'est ça, mais ce truc-là ne peut pas durer éternellement. Tu vois, au bout d'un moment, c'est redondant, et donc je me suis dit... Allez hop, basculons ailleurs, tu vois. Et donc là, je me suis posé un moment, pris un café, en regardant dehors dans le vide, en disant, ouais, bon, ok, ah oui, il y a peut-être ça, bon, on va amener l'histoire là-bas. Mais sinon, j'en savais rien. Et en fait, sinon, ce que je fais souvent, petite astuce triche, c'est que quand j'arrive à la fin de l'écriture d'un truc, je repasse en arrière et je change mon texte un peu pour mettre des indices qui laissaient entendre que j'avais prévu la fin. Et ça marche bien. Et je le fais, dans Rouge Vif, je l'ai fait, tu vois. C'est des petites choses qui font que... c'est une astuce un peu à la con d'auteur dans un truc comme ça, c'est que ça donne l'impression d'un bloc, d'une cohérence, c'est-à-dire que tout est pensé, tout fait sens et se reconnecte. C'est un peu le cas vu qu'il y a une constante, tu sais où tu vas, tu as une idée générale, voire plusieurs qui vont ensemble, mais pour donner l'impression que la fin est liée au début et au milieu et machin, et bah tu triches, tu repasses dessus après et tu reconnectes des fils Voilà, en laissant des petites oui. portes ouvertes que tu vas refermer.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, alors, parfois ça peut être, parfois c'est le genre de choses comme des films à suspense où il faut un deuxième visionnage, là parfois une deuxième écoute t'aide à comprendre. Et parfois, il y a ce qui peut être intéressant aussi, à la fois en tant qu'auteur, en tant que spectateur, c'est que ça va être ce qu'on appelle des harengs rouges, c'est-à-dire des fausses pistes narratives. Mm-hmm. Tu vois, tu parlais de rouge
ça,
vif,
j'aime bien en
sans
faire.
Trop en révéler, le rouge vif a une importance dans le, quand on écoute ce podcast-là. Et c'est vrai qu'en tant que spectateur, tu parlais d'être agrippé, c'est pareil, tu es vraiment finalement sur le fil constamment, quoi. Oui.
Mais par exemple pour ces trois là je vais pas spoiler, mais la fin en fait te fait découvrir autre chose, et en fait tu peux le réécouter. Par exemple dans Lumière Noire, il y a une espèce d'ambiguïté sur le personnage principal que tu découvres un peu vers la fin, où tu sais pas si en fait voilà, et du coup tout ce qui était dit avant peut être réinterprété autrement. Dans Bisous à demain, en fonction de ce qui se passe à la fin, tu peux te dire ah mais non, c'était pas ça du tout le rôle de l'un et peut-être de la nana, donc tu peux, et en fait tu revois comment, et j'ai fait exprès de mettre des choses particulières, des petites phrases, des petits trucs qui laissent entendre que plus tôt dans la série en fait il avait dit ça, elle avait dit Enfin voilà, et dans Rouge Vif, il y a un peu de ça aussi.
Étant donné qu'on est à l'audio, chaque parole prononcée ouais. compte, et rien n'est gratuit.
Ouais, c'est ça. J'aime bien ce truc-là de vous faire comprendre. En fait, il y a des règles. Et genre moi, j'aime bien en filigrane vous dire attention.
Le fusil de Tchekhov, puisque tu en parles dans Rouge
Vif. Je vais dire des trucs. Faites attention, mais il faut. Ça va pas de soi, tu vois. Il faut le faire entendre que attention, dans ce que vous êtes en train d'écouter, il va y avoir des choses très importantes parfois. Ce qui veut dire que si t'écoutes ça en dilettante, en faisant autre chose, bah tu vas rater des trucs qui seront. Je l'ai un peu appuyé dans à tâtons dans la fiction policière, parce que là, c'est vraiment chaque mot, chaque son, chaque machin a une incidence, tu vois. Donc c'est vraiment, soyez attentifs. Mais peut-être qu'il est trop tard, là au début vous l'étiez pas, mais je vous fais comprendre que maintenant il faut l'être.
Faut un petit peu.
Après, si vous voulez pas l'être, boire un café en même temps, parler avec quelqu'un, à vous, voilà.
Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, mais dans Rouge Vif, il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Il y a beaucoup de choses, donc comme tu disais, c'est mieux de pas spoiler, et c'est... Celui-là particulièrement est très riche, donc j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à l'écouter, à se faire une idée. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est une réflexion, je crois, sur le pouvoir de la fiction, c'est-à-dire que ce que ça peut avoir pour nous, j'allais dire presque anthropologiquement, le besoin qu'on a de se raconter des histoires, à broder, à partir, comme tu disais, de situations quotidiennes. Ça, c'est un aspect qui t'intéresse aussi?
Ouais, ben en fait, c'est ce que tu disais, c'est une mise en abîme de tout, et donc de la fiction, de la place de l'auteur, tu vois, comment il se reconnaît, comment il peut se prendre au sérieux, se faire le malin, comment il peut être mis en difficulté, sur l'aspect sonore, sur le podcast. En fait, il y avait beaucoup, à ce moment-là, je me posais deux, trois petites questions sur ces trucs-là, en voyant des aspects un peu ridicules dedans, tu vois, à se prendre au sérieux ou à faire des... Et j'avais envie de questionner tout ça avec un peu d'humour et de gentillesse, même si parfois c'est un peu moins gentil, peut-être. Mais oui, et la place de la fiction, en fait, je sais pas, c'est quand même un truc formidable. Moi, c'est juste que je suis émerveillé par la fiction et ce que ça permet. Sous tous ces genres, tu vois, avec plein de médiums différents, c'est ce que je te disais, à la télé, au théâtre, dans les romans. Et à chaque fois, il y a des formes particulières qui permettent des libertés ou des contraintes particulières, avec des messages particuliers que tu peux véhiculer, des rythmes différents, etc. Et j'avais envie de questionner ça, mais la fonction folle de la fiction, moi, je la retrouve dans le fait de vous bousculer, ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, d'attraper quelqu'un et qu'il ressorte de là un peu différent, un peu changé, tu vois. Et je trouve que c'est une fonction majeure. Mais ça ne veut pas dire un truc qui se prend forcément trop au sérieux ou pas assez, ou... En fait, il y a plein de façons de sortir d'une fiction transformée. Tu vois, ça peut juste être par cet émerveillement ou par le fait d'avoir passé un bon moment qui t'a fait sourire, et donc t'as eu quelque chose, repensé à toi, à des machins. Il y a mille et une façons d'être transformé. Et ce que je déteste, moi, c'est les fictions insipides où tu sors de là et tu te dis, bon, allez, hop, une merde de plus. Là, j'ai perdu 2 heures, ça me fait chier. Voilà. Mais je pense que beaucoup de gens font des fictions de qualité. Et même, je t'en parlais tout à l'heure, dans la saga MP3, aujourd'hui, qui est assez méconnue, en fait, il y a des trucs complètement dingues en termes d'inventivité, permis par la fiction sonore, et que j'invite tout le monde, toi y compris, à aller écouter.
Bien sûr.
En vous perdant sur Twitter, vous pouvez écouter ça. Et ils font... Enfin, là, il y a un travail sur la fiction, tu vois, un travail de créativité, d'imagination, juste pour casser les portes et te transformer entre-temps. C'est, moi, c'est ce que je trouve le plus fou, et eux le font dans... Donc je repousse là-dessus, allez écouter de la saga MP3.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
Tu parlais d'être émerveillé, c'est quoi les choses qui t'ont émerveillé ou qui t'émerveillent toujours, les fictions que tu découvres, dans lesquelles tu vas puiser de l'inspiration? C'est des films, des romans, c'est la vraie vie, tout simplement, regardée par sa fenêtre,
ouais. Comme tu disais. Bah, y a de tout, en vrai, je sais pas pour toi, c'est...
Oui.
Vas-y, réponds à cette question en premier.
Moi, je réponds à cette question.
Vas-y, je le fais après.
Ah bah, beaucoup de choses, mais par exemple, moi, je suis émerveillé par les invités que je reçois dans mon émission.
D'accord,
enfin,
pas, gardé, pas mal, un peu comme réponse. Ah, il est fort.
Non, mais c'est vrai que je pense que il y a ce besoin de se raconter des histoires, et par chance on est aujourd'hui, notamment avec les moyens techniques qui sont permis aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses, ouais. Puisque avant on écrivait ou on faisait de la peinture, aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses film, en audio, donc
ouais, c'est ça, avec peu de moyens et un peu d'envie de machin, tu peux bricoler des trucs qui sont et même qui peuvent sembler assez pro parfois, tu vois, si tu mais je te rejoins entièrement sur le truc d'émerveillement. En fait, il y a un truc, moi, qui me fascine, c'est un peu ça, c'est le côté bricolage de certains, et qui font des merveilles avec ça. Et je le retrouve surtout en ce moment dans la fiction sonore, peut-être parce que, mais je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est ce que tu disais, il y a un renouveau, et donc il y a plein de gens qui viennent de partout, qui n'ont pas été formatés par certains milieux, par certains trucs, qui ne sont pas passés par des écoles de scénaristes, et du coup qui ont une voix particulière, un truc différent à raconter, quelque chose à raconter déjà, et qui n'ont pas peur d'essayer des choses. Ça me fascine, je suis émerveillé quand je découvre ce genre de création. Et la création sonore permet ça en ce moment. Il y a une espèce de vigueur folle et un foisonnement. Tu vois.
Mais après, oui, c'est ça. Tu parlais de faire des choses avec trois bouts de ficelle. Il y a peut-être cet aspect-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que ce soit en France ou dans d'autres pays, par exemple, faire des films, ou tu parlais de monter une pièce de théâtre, c'est des choses qui sont... c'est assez coûteux. C'est peut-être des milieux assez fermés. Et finalement, pour ce qui est de la fiction sonore, il y a peut-être un côté vous ne nous laissez pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. C'est-à-dire que moi, faire un film de science-fiction avec le budget et le rendu visuel d'un Star Wars, je peux pas le faire chez moi, mais je peux justement le faire ça chez moi avec la part d'abstraction dont on parlait qui est propre à l'audio. Et ce que je trouve intéressant, tu parlais d'ouvrir des portes, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement le rapport entre les créateurs et les spectateurs est différent, puisque j'allais presque dire ils se rencontrent à mi-chemin, c'est-à-dire que tu parlais de l'imagination, là en gros c'est un petit peu le contrat tacite, c'est de dire je vous en demande un peu plus que si vous regardez un film ou si vous lisez un roman, mais on se rencontre davantage et puis ça peut donner des choses plus assez fructueuses derrière.
Bah, moi c'est ce qui me fait personnellement kiffer, ce truc là participatif, tu vois, où je te disais attraper quelqu'un, le secouer, mais en vrai c'est juste que la fiction m'appartient pas vraiment, elle peut être interprétable de plein de façons par l'auditeur, l'auditrice, par toi, par et il y a aucune, enfin moi j'ai toujours peur de ce truc unilatéral où tu livres quelque chose et voilà, non, je pense qu'il peut y avoir un aller-retour de plein de façons, ça peut être très subtil, tu vois, une fiction participative, j'en parlais avec un pote la dernière fois, c'est pas forcément genre comme le livre dont vous êtes le héros.
D'accord.
Tu vois, je vais cliquer là et puis l'histoire va basculer à gauche, ça peut être sympa, mais il y a plein d'autres façons de faire en sorte que ce soit participatif et qu'il y ait un lien avec l'auditrice, l'auditeur. En l'incluant dedans, tu vois, en lui disant, mais c'est ta perception de ce qui se passe qui compte. Donc l'histoire, elle est à toi, en fait. Peut-être même plus qu'à moi à certains moments. C'est ce que j'ai essayé de dire un peu dans Rouge Vif. Et pour revenir sur ton autre question, ce que tu disais au début, je trouve ça super pertinent, parce que oui, il y a des milieux, en fait, vraiment fermés, dans le théâtre, le cinéma, etc. Les séries télé, les machins, c'est un peu en deux gammes et homogène, tu vois. Et donc, super dur d'y rentrer, un peu excluant, et parfois avec le risque en fait que ce soit juste des clones. Parce qu'en plus, il y a des processus un peu dedans de formatage, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Quand t'as un cahier des charges...
Les fictions finissent par toutes
exactement.
Ressembler, ouais.
Et ça, c'est chiant, tu vois, c'est horrible. Et ça fait chier, parce qu'il y a plein de gens qui ont des choses à dire, des points de vue différents, ce qu'on disait, tu vois, et une autre énergie. Et en fait, il y a un filtre.
Ouais.
Beaucoup.
Parfois, on va chercher, y compris pour des raisons mercantiles, le plus petit dénominateur commun, en fait. Ou alors, quelque chose, on copie ce qui a déjà fonctionné.
C'est ça, en se disant, ça va marcher. Mais tu sais, mais moi, je l'ai eu un petit peu pour certaines productions où on est venu me voir en disant, on a bien aimé le côté un petit peu rêche, un peu bizarre de tes créations. Et moi, j'arrive, je dis, bon, ok, je propose un truc. Et on me dit, oula, attends, aplanir un peu, enlever ça, ça, et donc t'es un peu là, bah attends, mais vous êtes venu me voir pour
c'est aseptisé finalement.
Exactement, c'est complètement aseptisé à la fin, ça devient... Ça ressemble de plus en plus à ce qu'on a déjà entendu ou vu ou quoi, et c'est horrible en fait. Mais c'est juste ce truc-là qui fait que la fiction sonore, en fait, beaucoup de gens s'y engouffrent. Parce qu'il y a un engouement, donc des gens qui vont écouter ce que tu vas faire, tu vois. Mmh. Et par ailleurs, qu'on peut se l'approprier et le faire avec peu de moyens, chez soi.
Et justement, ça rejoint quelque chose qu'on évoquait au début et dont tu parles aussi, que tu mentionnes justement dans Rouge Vif. On est dans un âge, peut-être pas le premier, mais en tout cas, si ça fonctionne en cycle, on est dans un cycle où le podcast est quelque chose d'assez mainstream, d'assez beaucoup de gens écoutent, puisqu'on n'en a jamais parlé. Et puis, il y a beaucoup de choses qui découlent de ça, c'est-à-dire qu'il y a des festivals de podcasts, des remises de prix qui sont organisées. Donc finalement, c'est quelque chose qui est passé ou repassé des marges à la norme, des marges au centre. Et finalement, c'est ce que tu... Pour rejoindre ce que tu disais, est-ce que c'est pas ça le risque que finalement, toutes les créations finissent par être aseptisées, se ressembler toutes, que on va dire des chaînes de télévision ou des sites d'information se disent « Ah ouais, c'est quelque chose qui marche bien, on va s'engouffrer dans la brèche sans vraiment tenter des nouvelles choses, repousser un petit peu les limites de ce qui se fait ?»
Il n'y a pas de fatalité, sinon on va se pendre.
Alors il y aura toujours une résistance justement. Exactement. De la part de certains.
J'en suis persuadé. Et d'ailleurs, tu l'observes, mais c'est un peu... c'est dit un peu dans Rouge Vif, ce truc-là de réappropriation. Oui. En fait, ce qui émerge de façon spontanée a une espèce de fraîcheur, un truc un peu... une subversion en soi, tu vois, et c'est souvent récupéré, lissé et revendu en plat réchauffé au micro-ondes, quoi. Le podcast ne fait pas exception, donc les trucs sont repris, remâchés et refaits pour en sortir un truc qui a aucune saveur, aucune aspérité, mais
des codes qui sont appliqués un peu à la lettre.
Exactement. En parallèle de ça, tu as toujours un aspect création émergente, création sur le côté périphérique. Tu l'as pour tout. Je veux dire, le rap, c'est devenu un truc super mainstream, mais tu as des rappeurs de dingue qui continuent à produire des trucs. Parfois, ça passe sous les radars, tu vois. Parfois, il y en a un ou deux ou une qui émerge de temps en temps, mais c'est ça pour tout. Et même au ciné, je veux dire, tu as une... quand même, il y a une création de folie, même en court-métrage. Et donc, pour la création sonore, je pense que c'est pareil. Tu as le truc est en train d'être récupéré, va l'être de plus en plus, avec des gros studios qui vont reprendre ça avec des moyens de ouf.
Des blockbusters, ce sera finalement.
Exactement. Mmh. Ils vont faire des trucs un peu, je sais pas, Spotify va faire un machin, un truc, Europe 1 va produire son petit...
Oui, c'est déjà le cas. Tu parles de Spotify, il y a un bon exemple, puisque c'est des, par exemple, des fictions audio avec des personnages comme Batman, où là, vraiment, on est avec des acteurs connus. Là,
c'est du blockbuster. Beaucoup de moyens, faire un truc qui va être accessible, populaire, mais pas dans le bon sens, tu vois. Ce truc-là n'est pas inéluctable. Par contre, j'en suis sûr et certain, et je le vois. Et il y a encore, il y a plein de gens qui bricolent des choses ou qui trouvent des chemins de traverse, tu vois, des sentiers sur le côté pour même tricher. Je connais quelques personnes qui ont réussi aussi à faire un truc pas mal, que moi je fais de temps en temps. C'est en fait, tu te fais accepter dans un truc public, un peu plus sérieux. Et une fois que c'est bon, tu glisses des trucs dans ta fiction qui étaient inattendus.
Un peu en contrebandier.
Et c'est ça, c'est vraiment le pirate du truc. Tu arrives, tu te fais passer pour un corsaire et tu arrives, une fois que t'es dans le port, tu dévoiles ton truc, t'as un drapeau noir, quoi. Mais il y a moyen de faire des trucs comme ça.
Mais ou alors, la solution, ça peut être, puisque toi, c'est ce que tu disais aussi, d'avoir un pied dans le système et un pied en dehors ou en alternant des choses un peu plus...
Ouais, c'est ça. Ça permet. Mais c'est ce que je te disais, ça permet plein de choses. Faut juste pas se perdre, je crois, dedans. Mais et puis en fait, trop s'en plaindre en disant, maintenant je suis. C'est un peu indécent, je trouve, parce que c'est une chance et un luxe, tu vois, d'avoir l'opportunité qu'on me donne de faire des choses dans ce cadre-là. Parce que encore une fois, je connais plein de créateurs, créatrices qui sont super talentueux, mais qui n'ont pas cette chance-là. On les laisse sur le côté. Ils ont pas. Et c'est fou les talents gâchés. Mais vraiment, les talents gâchés. De gens qui ne sont pas reconnus et à qui on n'ouvre pas cette porte-là. Donc moi, j'ai eu la chance de l'avoir un peu, donc j'en profite, tu vois. Je ne me plains pas trop. En revanche, je reste quand même assez critique et j'essaie d'être un peu lucide sur ce truc-là, de surtout pas se perdre en route et d'essayer pas de faire un truc qui plaise à ceux qui passent commande. Tu dois te faire plaisir à toi et accessoirement à ceux qui peut-être ont bien aimé ce que tu avais fait à certains moments. Tu vois.
Oui, c'est ce que tu disais plus tôt, c'est-à-dire que toi, t'as aussi besoin de pas t'embêter, de pas t'ennuyer, et c'est peut-être le meilleur moyen pour pas ennuyer ton audience en face.
Mais oui, ça marche comme ça.
Hein. Généralement.
Enfin, mais oui, mais enfin, en fin de compte, il y a un truc, c'est vraiment, il faut se faire plaisir, s'amuser, faire un truc que t'as envie d'écouter, ou de voir, si c'est un film ou un machin. Quelque chose que t'as, idéalement, qui n'existe pas, ou que t'as pas trouvé, et que tu rêves d'envie de découvrir. Et donc fais-le, et après ça te... Mais c'est une invitation à toi aussi, Robin, à tous, de faire des
Moi,
trucs comme ça.
Moi, c'est comme ça que j'ai commencé la radio.
Bah voilà.
Je voulais... très immodestement, j'ai créé l'émission d'interview que je rêvais d'écouter.
Bah trop bien, voilà, c'est ça. Où on prend plus le temps de parler de
Exactement,
certains sujets avec des...
Voilà, c'est ça. Oui, parce que la radio, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des... C'est des choses très codifiées où il y a des codes imposés. Et puis, parfois, on a envie un peu d'explorer, d'être sur des temps un peu plus longs, des choses un petit peu moins...
Ça permet plein de choses,
des
ça.
Des formats un petit peu moins resserrés. Ouais. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais, ce qui est un petit peu... qui peut-être la question qui fâche. Quand on est créateur de podcast, puisqu'on disait aujourd'hui, il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de créateurs, ça peut être même parfois un maquis. Est-ce qu'il est assez difficile de vivre de son art?
Mais je crois que c'est difficile.
Ouais, puisque tu parlais des plateformes comme Spotify, Deezer, ouais. Apple Music, des choses comme ça. Il y avait depuis quelques années, on parle de beaucoup de choses. On sait que la lecture des pistes, le streaming, c'est quelque chose aux auteurs en tant que tels rapporte très peu de choses. Il me semble qu'il y a, c'était peut-être il y a 3-4 ans, il y avait une revendication assez symbolique. C'était pour que les auteurs touchent un centime par... c'était de passer la barre du centime. Donc c'est dire à quel point il en faut des streams. Et donc je me demandais ce qu'il en était pour les créateurs de podcasts, justement.
Encore une fois, je sais pas trop au nom des autres, mais je crois que c'est quand même une galère d'en vivre, vraiment, tu vois. Après, moi, là, je commence à vivre de ça. C'est-à-dire que j'ai démissionné il n'y a pas longtemps pour faire que ça, écrire. Mais après, je vis comme un moine, quoi. Je dépense 3 centimes. J'ai besoin de... il me faut du tabac et du café, quoi. Et des bières de temps en temps. Mais, je crois que c'est chaud et c'est... tu sais, c'est une phrase que tu vas entendre 1000 fois dans ce truc. C'est un écosystème qui cherche son modèle économique, machin, bon. Ou comment faire prospérer votre podcast et en vivre, bidule. Ouais, je sais pas. J'ai des échos surtout d'amis qui sont auteurs, autrices, qui galèrent à en vivre, tu vois. Mais il y a moyen, en fait, en cumulant ça avec d'autres trucs, si t'écris pour de la télé, si t'écris pour si t'es multi-scénariste sur plein de trucs.
Mais après, c'est d'autant plus difficile, parfois même, de se poser la question, dans le sens où, comme tu disais, faites-le pour vous amuser. Toi, quand c'est quelque chose, c'est une activité que tu commences parfois de façon bénévole pour t'amuser, si tu fais ça pour cette raison-là, la question de se dire c'est quoi le business model, comment monétiser mon podcast, c'est pas une des premières questions qui se posent, voire la question se pose pas du tout. C'est peut-être, on parlait de l'effet boule de neige, quand tu vois que ça commence à bien fonctionner, que tu peux éventuellement en retirer quelque chose, voire en vivre comme dans ton cas, mais c'est pas, ça n'a rien d'évident au départ.
Non, c'est clair, pour en vivre, mais moi j'ai eu la chance de partir de là en ne me posant pas du tout cette question, tu vois, en bricolant ça le soir dans ma chambre, et je suis sûr que si j'étais parti à l'inverse d'un truc de « allez, il faut que je perce, il faut que je fasse rentrer des sous et tout ça », en fait, j'aurais fait de la merde.
Ouais, fait tu fais les choses à l'envers, c'est-à-dire que là on parlait du plus petit dénominateur commun, c'est tu te dis qu'est-ce que je peux raconter pour optimiser les chances que ça parle à une vaste audience,
voilà.
Et faire du clic et du blé.
Ouais, mais après je sais pas, il y a peut-être des gens pour qui ça marche, tu vois, de penser en termes de public cible et de produits à mettre en avant ou même d'œuvres à mettre en avant par rapport à ça. Moi ça me fume, quoi. Si je fais ça, c'est une catastrophe. Ça donne des trucs catastrophiques, lisses, enfin voilà, à chier. Et j'ai eu la chance de pas commencer comme ça, vraiment. Mais c'est, encore une fois, c'est une liberté, un luxe, tu vois, ouais. C'est fou, quoi. Parce que je rentrais chez moi, je pouvais faire ça, mais parce que j'avais un boulot stable à côté, quoi. Mais bon, c'est voilà. Pour d'autres, je sais pas. Encore une fois, je connais plein de gens qui veulent en vivre, tu vois, et qui essaient. Et je crois que il y a plein de façons de le faire, mais j'ai surtout l'impression de voir des gens qui en vivent quand ils sont à la technique, donc ingé son, mixeur, etc., compositeur, mais en tant qu'auteur ou même réel, mais en tant qu'auteur, autrice, c'est quand même galère.
Les professions plus techniques, en fait.
Ouais, parce que tu peux switcher sur plein de projets. Si t'es sympa et que tu travailles bien, en fait, on te rappelle pour des trucs et tout ça. Enfin, mais en tant qu'auteur, c'est un truc plus compliqué. On doit te reconnaître pour ta patte, tout ce que tu fais. Et donc, on va pas te dire, bon, là, il y a un projet qui a sur la princesse machin. Est-ce que tu veux te chauffer là-dessus? Et puis un autre, tu vois. Donc, auteur, c'est un peu compliqué. Voilà.
Oui, et puis avant d'avoir sa propre voix, son propre style, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs projets aussi.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un travail au long cours, quoi. Enfin... Je sais pas, ça dépend encore une fois des gens. Moi, j'écris vite parce que c'est un truc un peu nerveux, tu vois, où j'ai un truc qui doit sortir, je le fais, et puis je me relis une fois peut-être. Mais je sais que parfois, pour certains, il y a un travail plus conséquent en amont, tu vois, ils font de la recherche, parfois recherche historique, ou ils font tout un plan précis de l'intrigue avec des fiches personnages. Voilà.
Moi, je fais quelque chose de plus spontané.
Ouais, avec le risque que d'avoir des personnages peut-être moins denses, moins profonds, une histoire moins travaillée, mais c'est pas grave. Moi, j'ai choisi ce truc-là, et c'est ce qui me plaît le plus, parce qu'en fait, la tension, le stress de se dire... J'ai une énorme montagne à gravir, là j'ai développé toute cette idée, maintenant il faut que je m'y mette. Moi c'est un refouloir, quoi. C'est-à-dire, ça me rebute, je veux pas y aller, tu vois. Quand je sais que ça va être un truc dense, infini, qui va me prendre des mois, ben, en fait je le supprime de mon ordi et je fais autre chose, quoi. Voilà.
Oui, tu es dans ce rapport assez direct à la création, et d'écrire vite, de tourner vite, et de pouvoir avancer en plus.
Mais ça permet, en fait, ça permet d'autres trucs. Par exemple, pour Lumière Noire, ce que je te disais, chaque épisode, je le faisais dans la foulée. C'est-à-dire, en journée, j'y réfléchissais un peu parfois, puis le soir, dès que j'avais un peu de temps, bim, j'écrivais, je m'enregistrais, je le montais. Et comme ça, c'était fait, tu vois, et ça enlève beaucoup de doutes. Tu peux te dire, en fait, sinon, parce que la relecture d'un texte, d'autres autrices, auteurs t'en parleront, c'est un enfer, parce qu'en fait, t'es jamais satisfait. Ouais. Il y a toujours des retouches
à faire.
Ça peut
durer longtemps. Tu peux faire 7-8 versions du même texte.
C'est infini. Là, j'ai fait un truc pour France Culture, je crois que c'est la version 17 qui a été. C'est le scénario version 17 qui a été retenu à la fin pour le. Mais parce qu'il y avait un script docteur et parce qu'il y avait d'autres moyens et il fallait faire un truc autrement plus costaud. Et moi, ça me rend un peu fou, tu vois, ce truc-là, même si j'ai appris en faisant ça. Mais moi, j'aime bien le truc complètement spontané, quitte à ce qu'il y ait des déchets, tu vois, des trucs en plus, des trucs en trop, des machins mal dits, mal formulés, mal... C'est pas grave, ça fait partie du truc.
Ça te permet d'avancer ensuite et de...
Ouais, c'est ça.
De passer à autre chose et de...
Ouais, parce que c'est ça, traîner longtemps sur un même truc, en fait, tu te perds dedans, dans tes idées, et t'as moins d'envie, tu vois. Moi, j'écris jamais aussi bien, enfin vite, que quand c'est un truc qui doit sortir, tu vois, et ça me traverse.
C'est
là,
dans l'urgence.
C'est ça, maintenant, allez vite. Et c'est comme, je pense, quand on était étudiant et tout, quand t'es en rush, c'est là que tu t'apprends le plus vite, tu fais ton truc.
Puisque tu vas puiser dans tes ressources, c'est finalement, donc tu t'es presque poussé dans tes retranchements.
C'est la barre rouge de Terminator, c'est la dernière, là. Allez, hop, je prends ça.
Je savais pas que j'avais ça en moi. Ouais, tu découvres des choses sur toi aussi, ouais.
Bah oui, moi, j'écris jamais aussi bien que quand j'ai pas le temps d'écrire, et c'est un truc fou, quoi. C'est-à-dire, quand je sais que là, j'ai 15 minutes et je devrais vraiment faire d'autres trucs et tout ça, le cerveau me dit... Ah tiens, et s'il y avait cette idée-là, et si t'écrivais ça et tout.
Donc pop-up.
Ouais, c'est ça. Tic, tic, tic. T'as des petites fenêtres qui apparaissent. Donc t'écris quand t'as pas le temps, quoi. Ouais.
Et alors, tu parlais de tes projets actuels. Tu parlais notamment de Dracula, de Frankenstein. Par ailleurs, c'est les projets sur lesquels tu travailles actuellement. Il y a quoi sur, alors, dans ta tête, sur ton ordinateur, sur ta table de montage pour l'instant?
Là, qui va sortir bientôt?
Ouais, donc tu peux déjà nous parler sans trop en révéler.
Bah, donc, mais ça, je crois que ce sera pour Halloween, c'est Frankenstein de la RTBF.
D'accord.
C'est réalisé par Christophe Lorck, qui est un réalisateur incroyable. Et parfois, quand tu donnes ton texte, on en parlait au début, à un réalisateur, une réalisatrice, tu flippes un peu. Et ben, lui, je sais que ça va être génial. Et ça, c'est
donc
cool.
Tu flippes pas du tout.
Ouais, il va même l'embellir, il va l'enrichir. Ça. Donc voilà. Donc il y a ça qui sort sur la première.
Frankenstein, celui-là.
Ouais.
Ok.
Il y a une fiction que je suis en train de finir, financée par le FACR, en 6 épisodes longs sur le monde du travail. Qui D'accord. s'appelle Pensée Printemps, avec plein de comédiens, plein de monde. Et c'est une fiction un peu vénère. J'étais fâché. J'étais un peu en colère.
En colère contre le monde?
J'étais en colère contre. On vit vraiment dans une société. Et non. Et j'étais un peu furieux sur 2-3 trucs, sur la bourgeoisie et puis des petites dérives inhérentes au monde du travail. Donc je me suis lâché. Et donc ça, c'est un truc d'humour noir grinçant. J'ai essayé un style un peu que j'avais jamais fait avant.
Ouais.
Pensée
Printemps, tu
sais. Ça s'appelle Pensée Printemps. Et ça sort là, dans 2 semaines. D'accord. Je voulais que ça sorte pour le 1er mai, pour la fête des travailleurs.
Oui.
Mais malheureusement, ce sera 2 jours plus tard, je crois, un truc comme ça. Donc ça arrive, et ça va être... voilà. Tu me diras ce que tu en as pensé si
t'écoutes.
Avec plaisir,
ouais.
Et sinon, il y a une série pour France Culture qui s'appelle Fureur, qui arrive, je crois qu'ils sont en train, ils commencent l'enregistrement là, la semaine prochaine.
Sur laquelle tu es en tant qu'auteur ?
Ouais, je suis auteur, et du coup, c'est la saison 1. Normalement, ça devait être juste une série, et ils ont bien aimé, donc ils m'ont demandé de faire ça sur plusieurs saisons.
D'accord, donc ce sera vraiment au long cours.
Ouais. Ouais, ouais, on va, ça se trouve, il y en a que deux si jamais c'est, ça vous fait tout chier. Mais,
Et c'est, tu peux nous en parler un petit peu de l'intrigue ?
Ouais, c'est l'histoire d'un. Ça se passe aujourd'hui, c'est l'histoire d'un type qui accepte un boulot pendant les vacances de gardien de forêt. Donc il doit, et le truc est simple, on lui dit qu'il doit rester dans une forêt dans les Vosges, il doit rester dans la cabane, surveiller l'entrée pendant une semaine. Et la règle, c'est juste personne ne doit entrer, mais personne ne doit sortir aussi. Et il a juste une radio qui lui permet de communiquer avec une autre gardienne de l'autre côté de la forêt. Mmh. Et évidemment, il se passe des trucs super chelous dans cette forêt. Ça fait un peu peur, je crois, cette fiction. Et,
tu l'as écrit tout seul, co-écrit ?
Ouais, je l'ai écrit j'ai travaillé avec ce que j'avais jamais fait, un script docteur, qui s'appelle Thibaut Martin, et qui a fait un super boulot aussi de conseil, de recadrage, parce que je partais en sucette dans plein de sens. Et voilà, c'est 5 épisodes d'une demi-heure, je crois, un truc comme ça.
D'accord. C'est pareil, c'est quelque chose d'assez, j'allais dire, conséquent, avec pas mal de comédiens, budget assez confortable.
Mais oui, et des comédiens, mais fous, vu que c'est France Culture, quoi. Par exemple, pour jouer mon méchant, c'est Bastien Bouillon qui vient d'avoir le César ouais, donc fait. Voilà, des
pas
trucs
mal,
comme ça, et les autres comédiens c'est aussi de la folie, donc
il me semble que pour les dramatiques de France Culture, ils font régulièrement appel aux comédiens de la troupe de la Comédie Française.
Ouais, il y en a plusieurs, mais alors, moi j'ai pas trop mon mot à dire là-dessus, j'ai eu une super discussion, enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais Baptiste Guiton, qui est le réalisateur, est super cool, en fait, et à chaque fois on a une discussion sur le choix des comédiens, il me demande mon avis, ce que j'en pense d'un tel ou un tel, et sur plein de trucs, il est super avenant, et on peut vraiment en parler, et ça, c'est aussi un luxe fou.
Ouais.
Et donc, voilà. Mais là, je sais pas plus de choses encore sur le... Enfin, vous allez découvrir ça, et ça va être
bien. Oui, parce que je me permets de réagir. C'est vrai que même si toi, en théorie, ton rôle d'auteur, il s'arrête un peu aux portes, enfin, une fois que le script a été validé, comme tu disais, pour autant, toi, quand tu l'écris, j'imagine que tu peux pas t'empêcher d'avoir un timbre de voix, une tessiture pour le méchant, pour le héros, pour le personnage féminin. T'as quand même, bien malgré toi, des choses en tête.
Donc, j'imagine un peu, deux, trois trucs, mais c'est pour ça qu'avec la plupart des réalisateurs ou réalisatrices, ce qui est cool, c'est le travail de quand je donne juste un texte, c'est trop bien, c'est parce qu'en fait, je suis tombé que sur des gentils, en fait. Donc des gens à l'écoute et tout. Mais j'aimerais bien que ça dure. Mais des gentils, talentueux. Donc jackpot, quoi. Et en fait, il y a une discussion sur les personnages, les intentions, la couleur de la voix, etc. Et même sur la composition musicale, qui est super importante, t'as des discussions folles avec le réalisateur. Donc là... Mais je pense qu'elle va être pas mal celle-là. Je pense qu'elle va être bien réalisée.
Fureur, alors, on guette.
Ouais.
Bon, très bien. Alors, on arrive malheureusement bientôt au terme de cet entretien. Je vais te poser la question que je pose à tous et toutes mes invités. Est-ce que tu peux partager avec notre audience une recommandation culturelle d'une œuvre qui t'est particulièrement chère ?
Ouais, y en a plein, mais en
gros. T'émerveille.
qui m'émerveille dans un sens particulier, c'est ce que je te disais, c'est Demande à la poussière de John Fante, qui est dans mon top 3 des...
excellent roman.
Allez, cool. Mais oui, qui est juste fou, avec lequel j'ai grandi, je crois que je l'ai lu genre 10 fois, un truc comme ça, parce que... Mais dans une veine un peu... J'ai découvert ça, tu sais, je sais pas si on a tous un peu une phase Bukowski, John Fante, ouais. Tout ça, tu vois cette phase-là de désœuvrement.
John Fante était l'idole littéraire de Bukowski.
Ah mais voilà.
C'est pour ça, c'était son auteur préféré.
Il n'y a pas d'ailleurs, au début du roman de la poussière, un petit texte de Bukowski.
Il me semble, oui, puisque finalement, il a jamais été aussi connu et mainstream, pour reprendre un terme qu'on a déjà utilisé, que Bukowski.
Ouais.
Et en fait, je crois que c'est à force de longueur d'interview que Bukowski a dit, au fait, je dois beaucoup à ce type-là.
Ouais, allez, le regarder.
Mais c'est vrai que c'est un roman qui est... Il en a écrit pas mal, en fait. Ouais. C'est son héros Arturo Bandini, il en a écrit, il me semble, 4 ou 5. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, il a écrit ça. Tu vois bien les effets de la Grande Dépression dans Demande à la poussière. Et il a ouvert la voie justement à des gens comme Bukowski. Je pense aussi à quelqu'un comme Hubert Selby Jr. qui avait écrit Last Exit to Brooklyn, ou alors Requiem for a Dream. C'était basé sur un de ses bouquins. Enfin, on parlait d'ouvrir des portes, de casser des portes.
C'est
là,
clair.
C'est exactement ça.
Mais lui, ce qu'il a permis, et c'est ça ce que tu disais un peu, anonymat, je veux dire, succès à assez confidentielle, mais sur une, en fait, c'est juste une décomplexion sur le style, tu vois, qui est complètement épuré, que tu peux retrouver chez un Céline ou chez un...
Absolument, ouais.
Mais assez, et ça permet, ou parfois Hemingway, il y a un peu ça, tu vois, où c'est en fait, c'est un flow qui sort, qui est en fait, bah, qui vient du cœur, qui est pas, il y a pas de fioriture, de falbala, de con, de machin.
Une
tu
écriture
vois.
Nerveuse, ouais.
Ouais, c'est ça, ça sort, c'est et ça chez John Fonte, ce qui est génial, moi je trouve, c'est que ça fait écho, enfin le fond et la forme se parlent, tu vois, parce que sa vie c'est, raconte ça aussi, un truc assez, enfin c'est ça, assez douloureux, mais en prise directe avec le réel et des considérations très concrètes, tu vois, au quotidien. Et en fait, il y a pas de prétention à philosopher, mais toi tu peux par contre philosopher à l'infini sur des choses ultra simples qu'il a développées. Ouais. Moi, ça me fascine ça.
Mais en termes de style, je pense que lui-même, il était assez. Il envisageait un style assez dépouillé, comme tu disais, dénué de toute fioriture. Mais à lire, c'est. Puisque justement, cette écriture assez directe.
C'est avec, fleuve, hein, ça
ouais,
se
voilà,
tout seul,
peu de ponctuation, c'est quelque chose d'assez. On parlait d'être agrippé, d'être accroché, là, c'est exactement ça. Donc,
Là, il a réussi à développer ça, quoi. C'est ce qu'il faut faire maintenant.
Ouais. Donc, si vous n'avez jamais lu Demande à la poussière, lisez-le, c'est fantastique. Et il y en a un autre de lui qui est connu, y compris parce qu'il a été adapté au cinéma il n'y a pas longtemps, c'est Mon chien stupide.
Ouais. Mais il en a fait. Je crois que j'en ai quatre. Hein. C'est Mon chien stupide. Bandini.
Ouais.
Demande à la poussière. Et il n'y a pas Los Angeles, un truc. Je me souviens. Putain, je l'ai lu. Longtemps sur la route de Los Angeles,
c'est possible, je sais plus, mais en tout cas, il en a fait. Ils sont pas tous avec Bandini, mais en tout cas, il en a fait quelques-uns.
Bon, il faut tout lire.
Voilà, bah merci beaucoup. Merci Mehdi Bayad d'être venu répondre à nos questions.
Merci Robin.
Fleuve avec des réponses fleuves. Un grand merci également aux équipes de la radio Radio Panique à Bruxelles qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui pour l'enregistrement de cette émission. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt à toutes et tous.